France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Vaucluse prend la lumière toute cette semaine dans les carnets des initiatives et des solutions dans ce département de la région PACA. Aujourd'hui, un rappel. Les fleurs, c'est comme les fruits et légumes. Mieux vaut choisir celles qui ont poussé pas trop loin. Une floricultrice est mon invitée. Elle cultive des fleurs bio à Grillon, commune du Vaucluse, tout proche de la Drôme. Mais avant cela, prenons des nouvelles d'un dispositif national qui apporte une animation précieuse dans les petits villages. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et revoilà l'équipe de Villageois. Je vous ai déjà parlé dans les carnets de Villageois en trois mots. Le principe est d'apporter en même temps une fête et des services. Autrement dit, un spectacle, une guinguette, de la restauration au cœur du village, mais aussi de l'aide aux démarches administratives, des tests de vue, des tests de glycémie, du dépistage, de la prévention, de l'accompagnement informatique, et j'en passe beaucoup, histoire de réanimer le temps d'une journée les centres-bourgs. Bonjour Marianne Retailleau.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes directrice adjointe de Villageois. Votre tournée 2026 se prépare. Elle commencera au mois de juin. Et comme chaque année, vous cherchez à recruter. Lancez donc un appel sur notre antenne, Marianne.
Oui, merci pour cette opportunité. En effet, on prévoit le recrutement pour nos équipes 2026 qui seront donc d'une durée de 6 mois sur la haute saison pour venir animer nos villages de campagne. Donc, on recherche tout type de profil. Alors, sur les postes, on a des responsables de tournée qui gèrent le lien avec les mairies, les collectivités, mais aussi des équipiers et équipières de tournée et des stagiaires pour contacter tous les intervenants qui tiennent des stands sur les événements et bien sûr se rendre dans les villages pour animer, pour discuter avec des gens et les accueillir et faire tout ce travail d'organisation.
Est-ce que vous pourriez nous raconter une journée type de villageois ? À quoi ça ressemble ?
En milieu d'après-midi, on part du gîte où on est tous logés en équipe pour se rendre sur la place de village, donc un village en général de moins de 1000 habitants, et y installer des barnums, des tables, des chaises et de la décoration. Donc une fois qu'on a tout installé, eh bien on accueille chaque personne qui a répondu favorablement pour tenir un stand, que ce soit des associations locales, mais aussi des services du quotidien, comme vous le mentionniez, donc des opticiens pour le dépistage de la vue, mais aussi des guichets d'aide aux démarches administratives. Et pendant 3h30, on accueille les habitants et on les incite à faire le tour des stands et on leur présente toutes les structures qui se sont déplacées pour eux. Et sur la deuxième partie, on passe à l'animation, donc toujours un moment très convivial, souvent autour d'un quiz musical, avec bien sûr une restauration et une buvette. Et passé 21h, on reprend le matériel et on rentre à la maison pour pouvoir retourner animer le lendemain un autre village.
Qu'est-ce que ça donne sur une carte de France, cette tournée villageois 2026 ?
Eh bien, en 2025, c'était un peu plus de 20 départements dans plusieurs régions de France. Et en 2026, ce sera similaire. Beaucoup de territoires sur lesquels on repart. Donc, pour en citer quelques-uns, on est beaucoup ancré en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, dans les départements de la Nièvre, de Lyon et aussi de la Côte d'Or. Mais en 2026, on aura une tournée de plus en plus pérenne sur le territoire normand. Et on retourne dans des régions comme les Hauts-de-France, mais aussi le Sud-Ouest, et peut-être le Vaucluse et le Jura. Plusieurs départements sont encore à couvrir.
Quel est le statut de votre organisme ? Comment est-il financé ?
Donc, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a l'agrément ESUS, qui signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. Et on est financé par plusieurs organismes qui trouvent leur intérêt dans notre projet. Donc, que ce soit des caisses de retraite complémentaires, par exemple Malakoff Humanis ou encore AG2R La Mondiale et Ecclesia, en lien avec notamment le bien vieillir, mais aussi par des collectivités qui nous accueillent et également via quelques fonds européens.
Il peut y avoir un côté un peu désespérant à se dire que c'est seulement un jour par an l'animation villageoise. Ce n'est pas un retour des services publics dans les villages, c'est une fois dans l'année.
Alors, c'est un retour éphémère au début, mais notre but, c'est à la fois de s'installer de manière durable, avec une programmation de services qui sera différente quand on revient plusieurs années de suite dans certaines communes. Donc, dans la Nièvre, par exemple, et en Côte d'Or, ça fait 6 ans maintenant qu'on revient sur le territoire et que la moitié des communes qu'on couvre sont celles qu'on couvre depuis 2020, donc qui nous attendent tous les ans. Et puis sur place, on fait en sorte que le passage aux divers stands puisse permettre d'engager des démarches sur place et donc de changer un petit peu le quotidien des personnes pour plus tard. Donc c'est à peu près 10% des interactions qu'il y a sur les événements qui se concrétisent en une prise de rendez-vous, en la découverte d'un service ou le fait de démarrer une démarche. Donc par exemple, s'inscrire à la médiathèque ou encore ouvrir un dossier pour les aides à la rénovation. Donc ça s'ancre sur le long terme. Et puis, on a des nouveaux projets également qui nous permettent de favoriser le développement du lien social sur un impact un petit peu plus long terme, donc en mettant en lien des habitants isolés entre eux pour créer des groupes qui se retrouvent régulièrement.
Qu'est-ce que vous retenez de la tournée 2025 de Villageois ? Il y a eu des moments marquants ?
Alors moi, cette année, sur un événement, quelque chose qui m'avait marqué, c'était pendant la fameuse animation dont je parlais, deux familles qui se sont mises en groupe ensemble au quiz musical parce que voilà, elles étaient installées à la même table mais chacune à un bout de la table et elles ont fini par gagner ensemble et elles étaient venues me dire que ça fait 1 ou 2 ans qu'elles se croisaient à la sortie des écoles et simplement elles se voyaient mais elles s'étaient jamais parlé et voilà maintenant ils sont devenus amis donc c'est ce qui montre aussi des liens qu'on peut créer juste le temps d'un après-midi.
Voilà, toutes les infos sur la tournée 2026 de Villageois sont sur votre site et on a mis un lien, bien sûr, à la page des carnets de campagne. Merci beaucoup, Marianne Retailleau.
Merci à vous.
Et bonne journée, à bientôt.
Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous voici à Grillon, village bien nommé du Vaucluse, tout près de la Drôme, pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur dans les carnets, les fleurs françaises. Je vous rappelle que l'immense majorité des bouquets qui sont vendus en France ont fait un très grand voyage. Les fleurs coupées ont souvent poussé au Kenya ou en Équateur. Elles ont transité par les Pays-Bas avant d'atterrir dans votre vase. Si l'on veut éviter de soutenir ce marché, on peut choisir des productions locales. À Grillon, par exemple, il y a une productrice de fleurs bio et locales. Bonjour Mathilde Roustan.
Bonjour.
Les fleurs du Grillon, c'est le nom de votre exploitation. Vous êtes installée depuis 3 ans et c'est une reconversion puisque vous étiez fleuriste auparavant. Quel a été le déclic pour passer de la vente de fleurs à la production ?
Alors j'ai été fleuriste pendant 5 ans dans différentes boutiques et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la manière dont étaient produites les fleurs. Donc souvent dans d'autres pays qu'en France, qui avaient beaucoup voyagé et qui avaient été beaucoup traités également. Donc le fait de travailler avec ces fleurs dans un endroit clos a commencé à me poser des questions. Et c'est à ce moment-là que je suis allée voir un petit peu ailleurs, notamment Emeline de la ferme de Les Cinquites en Bretagne, qui produisait déjà ces fleurs depuis 2018, donc en agriculture biologique.
Comment se sont passés les débuts, Mathilde ? Est-ce que vous avez testé votre activité dans un premier temps ?
Oui, alors j'ai fait partie de l'espace test. Donc j'ai été encadrée par l'ADEAR, donc c'est une association pour le développement de l'emploi agricole et rural, donc qui regroupe des paysans et paysannes et qui œuvre à l'installation des agriculteurs et des agricultrices. Et dans ce cadre-là, en fait, je suis allée m'installer chez un ancien maraîcher. Donc j'ai pu bénéficier de son outil de production pour tester les fleurs, mais aussi la commercialisation et toute l'activité avant de me lancer, on va dire, officiellement sur mon terrain depuis cet automne. Donc là, j'ai fait vraiment l'installation de A à Z avec toutes les serres, tout l'atelier. Voilà, donc là j'y serai à vie maintenant. Mais ça m'a aidé voilà à pouvoir tester vraiment tout un ensemble de choses et ce qui m'a rassurée pour la suite.
Oui, voilà, le test a été concluant.
Voilà, c'est ça. Maintenant, je suis officiellement installée.
Vos fleurs sont bio, Mathilde, donc cultivées sans pesticides. À quel point est-ce difficile ?
Alors, d'une part, ça reste de l'agriculture, donc ça reste forcément compliqué parce qu'il faut toujours s'adapter. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'année, même si on peut imaginer beaucoup de choses. Après, la spécificité du coin, c'est quand même qu'il fait chaud et sec pendant 2-3 mois de l'année. Donc, ça rajoute un petit peu de stress. Après, il y a pas mal de fleurs qui sont plutôt résilientes. Donc, après, j'adapte un peu en fonction des variétés. Ce qui est compliqué, par contre, ça peut être notamment l'approvisionnement de semences biologiques. Donc, il y a beaucoup de dérogations à faire, mais on fait remonter petit à petit les variétés qui nous manquent en bio. Donc ça, c'est assez important et c'est notamment avec l'association des fermes florales bio qu'on arrive à faire ce travail-là. Et donc, je dirais que pour produire les fleurs, voilà, ça reste quand même de l'agriculture, donc beaucoup de travail. Et notamment quand il y a des attaques de parasites, on ne peut pas vraiment faire quelque chose. C'est plus du préventif que du curatif en agriculture biologique.
Quelles sont les premières fleurs attendues? C'est la mi-février à peu près, hein, ça va commencer?
Oui, ça va arriver à peu près mi-fin février avec les anémones. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est narcisse, jonquille, renoncule, tulipe. Et puis après, là, c'est parti pour toute l'année jusqu'à fin octobre.
Les tournesols et les dahlias pendant l'été?
Voilà, avec les cosmos, les zinnias, les célosies, tout type d'amarante, de statis, d'immortelles. Il y a à peu près une cinquantaine de variétés sur toute l'année.
On s'imagine que c'est un enchantement de travailler dans les champs de fleurs. Est-ce que ça fait partie de votre plaisir à exercer ce métier?
Oui, 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 c'est toujours varié d'une part. Et il y a toujours beaucoup de couleurs, d'odeurs, de parfums. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est très plaisant, effectivement.
Est-ce que vous sentez une prise de conscience de la part des consommateurs, de la part du grand public pour cette histoire de consommer des fleurs locales?
Oui, globalement, les gens sont plutôt sensibilisés. Notamment, moi, je fais le marché de Diolfi et il y a beaucoup de clients qui viennent justement parce que c'est de l'agriculture biologique, mais qui ne vont pas chez le fleuriste depuis déjà pas mal d'années. Après, il y a certaines personnes pour qui ça a moins d'importance. Notamment, il y a des gens qui regardent plutôt le prix ou alors juste il n'y a pas forcément la connaissance des conditions de production des fleurs.
Est-ce que c'est plus cher alors les fleurs françaises et bio?
Eh bien, pas forcément. Non, moi, j'en vends aussi à des fleuristes. Et donc, il y a certaines choses qui peuvent être plus chères. Mais globalement, je ne suis pas plus chère que les grossistes.
Et notamment parce que les fleuristes font une moindre marge sur les produits locaux, parce qu'il y a un argument marketing de vendre des fleurs françaises.
Oui, il y a l'argument, oui. Après, c'est toujours complexe de travailler avec les fleuristes parce que la Hollande, à un moment, est arrivée avec un système beaucoup trop simple et où les fleuristes savent déjà quelles fleurs ils vont avoir, la taille de la tige, le prix exact qui ne bouge pas trop. Et nous, c'est vrai qu'une semaine à l'autre, il y a des choses qui peuvent changer, donc même ne serait-ce au niveau des quantités, des couleurs. Donc c'est un petit peu plus compliqué, ouais.
Vous sentez que certains fleuristes font l'effort, en tout cas?
Oui, 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 complètement. Notamment les personnes qui viennent de monter des boutiques de fleurs, qui font des efforts, ouais, qui ont compris pas mal de choses, mais même pour leur santé et celle des clients.
Est-ce que vous êtes optimiste alors quant à la pérennité de votre exploitation?
Oui, je suis plutôt optimiste parce que les choses évoluent et de plus en plus de personnes sont sensibles et me contactent. Pour les fleurs, notamment aussi pour les mariages. Parce que je fais beaucoup de mariages et voilà, les gens célèbrent l'amour avec les fleurs bio.
Avec des fleurs bio et locales, c'est toujours mieux. Les fleurs du Grillon, c'est à Grillon, dans le Vaucluse. Merci beaucoup Mathilde Roustan.
Merci à vous.
Et bonne journée. Au revoir.
Au revoir.